you. I wanna be loved by you alone. Pou-pou-pi-dou.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jacques Lavergne. Bonjour Jacques.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons parler de son premier roman, roman policier intitulé Peinture au pistolet à Céret, ou un autre titre, La balade des cantiques. On en parlera tout à l'heure. C'est aux éditions Mare Nostrum, une maison d'édition de Perpignan. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors, pour vous dire que dimanche 12 dernier, eh bien, comme nous en avait parlé Jacques Griffo la semaine dernière, a eu lieu Place aux Nouvelles Lozerte 2010, sous un beau soleil. Et le jury, donc, a décerné le prix de la Nouvelle du Scribe à Frédéric Montlouis Félicité pour son recueil de 8 nouvelles intitulé Avis de démolition. Alors, félicitations à Frédéric. Ensuite, samedi 18 septembre, de 14h à 18h, à Haute-Rive, à la toute nouvelle librairie La Litote, rue de la Mairie, eh bien, le Griffon Bleu, maison d'édition que vous connaissez, hein, qui est également à Haute-Rive, une maison d'édition dédiée à la jeunesse et créée par Didier Debord, eh bien, vous présentera des nouveautés dans leur collection On réagit, qui est dédiée aux adolescents. Alors, avec la présence de Marie Mulizou, qui est une auteure jeunesse, également Maxime Vivas, que vous connaissez, et puis Didier Debord lui-même, et ainsi qu'une illustratrice, Monique Mazarguil, déjà venue également à Page à Page. Et puis, je vous signale que jeudi prochain, le 23 septembre, Didier Debord sera mon invité justement. Et puis je termine cette petite page d'infos. Samedi 18 septembre également, à 15h, à la FNAC Place Wilson à Toulouse, vous pourrez rencontrer le papa des Bidochons, Christian Binet, qui vous présentera le 20e album de cette célèbre bande dessinée. Donc n'hésitez pas à venir, vous pouvez faire à la fois Haute-Rive et puis la FNAC Wilson. Voilà, ce n'est pas très loin l'un de l'autre.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou.
Alors, je me tourne vers mon invité à présent. Donc, Jacques Lavergne, nous étions rencontrés en janvier dernier au Salon de Montgiscard.
Tout à fait.
Voilà, où vous présentiez bien justement votre premier roman, roman policier, ce polar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, vous étiez accompagné aussi des éditions Mare Nostrum.
Tout à fait, oui.
Et puis, donc, depuis, j'ai lu avec grand plaisir votre livre. J'ai beaucoup aimé. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord parlons un peu de l'auteur, de vous Jacques. Alors vous êtes d'origine de la Gironde, de Pessac exactement.
Oui, un peu par hasard, parce que je suis né là-bas, ma mère était enceinte, j'y suis né, mais je n'y ai pas mis les pieds comme on le disait tout à l'heure, je n'y ai pas mis les pieds au sens premier du terme, donc je suis surtout toulousain.
Voilà,
et
depuis,
donc mi-catalan, mi-lotois pour être exact.
Donc voilà. Catalan par votre maman et lotois par
votre mon père, donc ce qui fait quelqu'un de redoutablement têtu, bien sûr.
Ben c'est bien, ça a du bon aussi d'être têtu, ça permet d'arriver là où on veut.
Voilà, oui, ça permet de suivre une idée et d'aller jusqu'au bout.
D'aller jusqu'au bout. Alors votre grand-père aussi a beaucoup, on peut en parler, c'est important pour vous, Pierre Pagès,
oui,
votre grand-père.
Beaucoup compté en ce que, d'abord, il m'a en partie élevé puisque j'ai beaucoup vécu avec lui.
Dans les Pyrénées, enfin il est d'origine orientale,
mais il était d'origine
de Mathemale,
le berceau de la famille. Donc, qui est un plateau et un grand lac dans les Pyrénées, un paysage absolument superbe, et donc il était d'origine, mais très lointaine de là-bas. Et effectivement, il m'a donné le goût de la lecture, il m'a en partie appris à lire, mais que ce soit quand même très compliqué d'apprendre un enfant à lire, quand on n'a pas la méthode.
Tout à fait.
Il y a beaucoup transpiré, j'ai peut-être pas été un élève des plus brillants, mais enfin, on y est arrivé l'un dans l'autre, entre la maîtresse et lui, et il m'a donné le goût de la lecture, et puis j'ai bien été aidé aussi par le fait que j'étais, et je suis toujours d'ailleurs fils unique, et que donc j'étais un peu seul et je me suis réfugié dans le livre, lecture. Dans la lecture et dans l'imagination. Et donc ceci peut-être explique cela aujourd'hui.
Et vous êtes devenu boulimique de livres.
Oui, voilà. Alors ça, c'est une. Oui, je lis beaucoup, hein, à peu près une cinquantaine de livres par an, ce qui devient de la lecture professionnelle à ce niveau-là.
Oui.
Mais bon, je ne sais pas. Quand je ne vais pas bien, je vais acheter des livres. Voilà, il faut que j'ai un rapport.
Ah, vous, c'est pas les habits, vous, c'est pas les. Voilà, il y en a qui achètent des chaussures,
oui,
des vêtements.
Moi,
vous, c'est les livres.
Alors, je vais dans les bonnes librairies de Toulouse, style Ombre Blanche et d'autres, Priva, etc. Et je touche les livres. J'ai besoin de les toucher. J'ai besoin de sentir l'odeur de colle. J'ouvre le livre et je fourre mon nez dedans.
Aussi,
voilà,
le
l'encre. Voilà, j'ai un rapport physique au livre.
Donc alors, j'imagine que le livre numérisé, ça ne.
Non, alors là,
ça, voilà.
Ça m'intéresse pour moi, hein. D'abord parce que j'aime bien prendre des notes sur mes livres. Quand je lis, je souligne, j'écris, je fais des renvois.
Oui.
Et puis j'ai besoin de toucher, de sentir. Donc c'est clair que le livre numérisé
non,
pour moi, pour l'instant, peut-être j'y viendrai un jour. Hein, il faut jamais. Mais pour l'instant,
faut jamais dire jamais. Comme
oui,
on
oui,
dit.
Voilà. Mais pour l'instant, je ne sens pas bien. Hein. Je suis encore resté très basique là-dessus.
Bah tant mieux, tant mieux. Moi, c'est pareil. J'aime bien aussi le contact physique avec le livre. Alors vos études, vous les avez faites à Toulouse, hein, des études de droit. Hein,
voilà, classique, des études de droit à l'Université des sciences sociales de Toulouse, hein, complétées après par puisque je suis spécialiste, entre autres, mais surtout de fiscalité. Donc, j'ai fait l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand.
Oui, vous avez même été donc inspecteur du
voilà,
fisc.
Voilà, j'ai commencé
hein, oulala,
ma carrière.
C'est un métier qui
voilà,
fait peur, ça.
Hein. Depuis, trop peur, non, mais bon, voilà, je l'ai été un peu.
Pour ceux qui ont des choses à se reprocher, pour ceux qui ont des choses à se reprocher, peut-être.
On en a tous.
Mais avec un exil à la ville de la Moutarde, à Dijon.
Oui,
à l'exil
oui, j'ai
de 5
un exil
ans.
Un peu difficile à Dijon, mais c'était dans mes vertes années, comme dirait Robert Merle. Donc, c'est un peu oublié. J'ai essayé de l'oublier, oui, ça a été un peu difficile pour moi.
Alors là, actuellement, vous êtes avocat à Toulouse et à Perpignan,
voilà,
sur deux
barreaux et j'ai un cabinet dans chaque ville, effectivement.
Et vous continuez également à donner des cours de fiscalité à l'Université
voilà.
de droit de Toulouse.
Voilà, j'essaye de transmettre un peu ce que je sais. Sachant que quand même, c'est peut-être intéressant de le préciser pour la suite, dans mon activité professionnelle, je ne fais absolument pas de droit pénal. Donc,
fiscal.
Ou non, du droit
non,
des affaires
droit
en règle
affaires.
Générale, avec une dominante en ce qui me concerne de droit fiscal, mon équipe travaillant sur les autres matières. Mais je ne fais pas de droit pénal, donc je ne suis pas venu au Polar par un détournement, entre guillemets, professionnel. Hein.
Tout à fait. Mais bon, on le verra, là, le sujet, la trame de votre Polar, quelque part, ça peut un peu, le trafic d'œuvres d'art, ça peut un petit peu peut-être se rapprocher quand même de votre... de votre métier, quand même.
Dans mon métier, on ne trafique pas beaucoup les
oui,
euros.
Oui, non. Non, c'est pas ce que je voulais dire, Jacques.
Mais...
mais bon, peut-être que, voilà, enfin, le... Non
oh, oh non, je ne sais pas. Non,
non,
je ne crois pas.
C'est vraiment indépendant
non.
De
oui,
votre métier.
Oui, c'est totalement métier. Indépendant. Totalement.
Je suis venu... on va en parler dans quelques instants. Alors, donc, comme vous le disiez, donc, votre grand-père, l'arrivée à la lecture, c'est grâce à Pierre Pagès, hein, votre grand-père, qui vous a donné le goût de la lecture. Et puis donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'arrivée à l'écriture. Alors oui, je voulais dire aussi que vous êtes cofondateur de la maison d'édition Au Diable Vauvert avec Marion
Mazurik. Avec Marion Mazurik, voilà, qui est éditrice, qui était aux éditions Flammarion, qui est une grande éditrice, enfin mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à avoir cet avis et c'est la véritable fondatrice. Moi, je l'ai effectivement accompagnée et ça a démarré là aussi sur un pari, ce qui est curieux parce que le livre et l'écriture de
aussi,
ce livre a aussi démarré sur un pari.
Oui.
Donc,
Le Diable Vauvert aussi.
Oui, Le Diable Vauvert, ça a démarré un jour à Béziers où j'étais avec Marion Mazurik, où l'on s'ennuyait devant... un spectacle, beaucoup décrié aujourd'hui, qui est un spectacle de corrida. Et on a parlé de ce que nous faisions respectivement. Elle était à Paris, elle s'ennuyait dans sa maison d'édition, puisque sa famille était restée dans le Gard, à Vauvert. Et donc, je lui ai dit, mais nous allons créer une maison d'édition en province, puisque moi, j'étais heureux, un amoureux du livre, de rencontrer une éditrice.
Tout à fait. De
foie gras qui rencontre le beurre de canard. Donc, c'était parfait. On a démarré sur cette idée. Elle m'a dit, mais je ne saurais pas le faire. Et j'ai dit, moi, je crois que je saurais le faire. Si tu sais faire des livres, je saurais faire le reste.
Et
voilà. Et
ça
a démarré sur un pari il y a 11 ans maintenant, je crois.
Ah,
et
oui.
Aujourd'hui, Le Diable Vauvert se porte bien. C'est une maison reconnue dans son style, dans sa ligne éditoriale.
Donc vous y êtes encore, voilà, vous...
Oui, ponctuellement, j'accompagne toujours Marion, mais c'était surtout pour moi le plaisir de voir comment démarrer une maison d'édition, comment fabriquer des livres. J'ai beaucoup appris, j'ai apporté quelques petites choses, mais Marion est quand même l'âme et la créatrice véritable du Diable Vauvert.
Alors l'arrivée à l'écriture, comme vous le disiez à l'instant, Jacques, c'est particulier, votre arrivée à l'écriture, c'est de ce polar, hein, justement.
Ah mais c'est un pari, là aussi.
C'est un pari, un défi que vous a lancé un ami, justement, des éditions Mare Nostrum.
Oui, alors c'est pas un ami de Mare Nostrum, il s'appelle Philippe Trousselard, on peut citer son nom, il est à Toulouse. Et comme moi, il a une résidence à Bagnouls, et donc nous... Sur la plage de Bagnouls, nous lisions déjà les polars de Mare Nostrum que nous passions, que
donc,
nous
maison d'édition de Perpignan.
Oui, maison d'édition catalane, basée à Perpignan, qui est spécialisée, qui a deux branches d'activité. En réalité, une partie historique et pas mal sur la retirade dont on a fêté l'anniversaire l'an dernier, en 2009. Et après, un gros département sur le polar. Donc nous lisions ces polars et il y a eu un autre événement, c'était le musée d'art moderne où j'ai été visiter l'exposition
Biulès,
qui est un peintre contemporain qui vient de Montpellier voilà. D'ancien de Support Surface, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait et j'y suis revenu en amenant mon ami Trousselard et nous avons vécu ensemble et pour moi la deuxième fois cette exposition. Et en sortant, on est allé boire parce que vous avez vu dans mon livre, on me l'a souvent dit, on boit beaucoup, on mange beaucoup.
Oui. Hein, c'est agréable, voilà, d'ailleurs.
Ça fait partie de la vie. Alors certains m'ont dit, mais vous auriez pu mettre les recettes. Bon, on n'en est pas là quand même. Surtout que je serais certainement incapable d'y mettre les recettes. Je suis capable de manger, mais pas forcément de cuisiner. Donc nous sommes allés boire et nous avons parlé de cette exposition et des polars de Mare Nostrum. Et le choc des deux, il faudrait écrire un polar qui se passe au musée de Céret. Je pourrais essayer. Il m'a dit, mais tu n'en seras pas capable. Et c'est de là, c'est parti sur ce défi.
Genre,
je lui
ai dit,
c'est tout à fait ça. C'était la cour de récréation. Et donc, je m'y suis mis. Alors, au début, c'était un peu difficile. Et puis après, c'est venu. Je me suis beaucoup amusé à me raconter à moi d'abord cette histoire. Tout à fait entre nous, je ne pensais jamais qu'elle serait éditée un jour. Je voulais aller au bout de mon pari et faire lire ce qui en sortirait à mon ami Trousselard. Bon, et puis après, ça
a été... Et finalement, voilà, ça a été un défi que vous avez eu raison de relever, Jacques, parce que le pari est vraiment réussi. Hein, c'est vraiment un très bon polar. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Merci, Claire.
Et puis, le suspense, hein, c'est vraiment jusqu'à la fin du livre. Hein, on est tenu en haleine tout le long. Et effectivement, le Mame de Céret est à l'honneur dans ce livre.
Et le mérite.
Ça donne envie d'aller le visiter, d'ailleurs.
Grand musée qu'il faut aller visiter.
Et l'Expo Biulès. Alors, donc, on va en parler un peu plus précisément. Donc, alors, je rappelle le titre pour nos auditeurs. Peinture au pistolet à Céret ou la balade des cantiques. Alors, il y a deux titres.
Oui, il y avait deux titres.
Vous avez eu du mal à choisir?
Non, j'ai pas eu du mal à choisir, mais je vous expliquais. Moi, je l'avais intitulé la balade des cantiques. Alors, pourquoi quand on lit le livre,
oui,
on comprend, puisque Biulès a peint
un
triptyque qui s'appelle la balade des cantiques, les cantiques.
Les cantiques.
Donc il faut après lire le livre, on comprend très bien pourquoi ces cantiques se baladent. Et puis je jouais sur le mot balade qui effectivement a deux orthographes mais aussi deux significations. Par contre, quand j'ai porté mon manuscrit à la maison d'édition, quand on m'a rappelé, en me disant, je crois qu'on va publier parce que c'est pas mal, m'a dit, mais il faudra trouver un autre titre parce que la balade des cantiques, c'est pas très vendeur.
Ah,
et ça faisait
pas très commercial.
Polar. Donc, m'a dit, il faudrait réfléchir à autre chose. Alors, évidemment, bon, ça s'est imposé assez rapidement, peinture au pistolet assez réel.
Oui.
C'était quasiment automatique, mais j'ai tenu quand même à ce que l'on me conserve mon deuxième titre.
Ah oui, tout à fait, qui est la balade des cantiques. Moi aussi. Alors, donc, c'est un premier roman, donc un polar, 2009, il date de l'année dernière, voilà. Vous l'avez présenté donc en janvier dernier au Salon de Montgiscard. Alors il y a, bien sûr, il est question de trafic illicite de biens culturels, d'œuvres d'art.
Oui.
C'est la trame de ce polar. Alors c'est là où on apprend, enfin moi j'ai appris, parce que je ne savais pas, j'ai appris beaucoup de choses dans votre livre. C'est ça qui est l'intérêt de lire des livres, on apprend des choses, moi j'aime bien. Alors le trafic d'œuvres d'art, en fait, arrive juste après le trafic de drogue et au même niveau que le trafic d'art.
Oui,
à l'heure actuelle, je parle.
C'est un trafic, les chiffres peuvent fluctuer.
Je ne pensais pas que c'était aussi important,
C'est très très important et c'est assez méconnu parce que...
Mais oui.
Parce que tous les vols d'œuvres d'art ne sont pas forcément déclarés. Le français est discret quant à son patrimoine, bien souvent. Le fiscaliste, là, sait pourquoi il est discret. Donc, nous ne savons pas tout, mais effectivement, il y a un trafic d'art important qui fait que... qui fait que c'est aussi d'ailleurs ces œuvres d'art peuvent se retrouver dans le trafic d'armes ou dans le trafic de drogue et servent parfois de monnaie d'échange.
Tout à fait. Donc voilà, donc j'ai appris ça. Voilà, c'est vrai que c'est comme vous le disiez, c'est assez méconnu quoi. On parle trafic de drogue, trafic d'armes, mais trafic d'œuvres d'art. Alors les lieux, comme on le disait, les lieux de l'intrigue. Alors justement, c'est le musée d'art moderne de Céret, en Catalogne.
Voilà, en Catalogne, voilà. Céret, la capitale des cerises, 300, je crois, 60 jours, 350 jours d'ensoleillement par an.
Donc, c'est pour ça, je m'explique le canard aux cerises. Voilà, on va en parler dans un instant. Voilà, ça m'a marqué, ça. Alors, il y a des très belles descriptions de la Catalogne dans votre livre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a d'ailleurs donné envie de découvrir cette région que je ne connais pas du tout.
Il faut la découvrir.
Et vraiment, ça donne vraiment envie. Les paysages que vous décrivez, ça ne laisse pas indifférent.
Oui, que le livre se passe à Céret, bien sûr, mais aussi à Banyuls. Pierre Pagès, dont le nom de mon grand-père,
vous avez repris,
je retrouve là, mais j'avais plaisir à le retrouver. Et comme je suis l'auteur, je fais ce que je veux.
Tout
donc
à
voilà.
Fait.
Je me fais plaisir d'abord, en espérant que ça plaira aussi au lecteur. Ça se passe aussi à Banyuls, puisque Pierre Pagès réside à Banyuls.
Voilà, et il travaille donc à Céret, au musée d'art moderne. Donc on y vient. Voilà, alors les personnages, on va dire, les plus les principaux, on va dire. Donc, bien sûr, le premier, c'est Pierre Pagès, qui est le conservateur du musée d'art moderne de Céret, qui est nouvellement arrivé dans ce musée, après avoir travaillé à Paris.
Voilà.
Donc il vient d'arriver dans ce musée,
Il rejoint ses racines catalanes.
Parce qu'il a des racines catalanes. En fait, un peu Pierre Pagès, donc vous avez rendu hommage à votre grand-père, par ce biais de donner le même prénom, le même nom à votre héros principal.
Quant à son caractère, ceux qui me connaissent
c'est
bien
ce que
m'a
je
dit,
me, je
ils
me
m'ont
demandais.
Dit, oui, ils m'ont dit, on sait que c'est toi qui l'as écrit, celui-là, tu n'as pas pris de nègre parce que le personnage te ressemble furieusement.
D'accord, donc vous avez pris le prénom et le nom de votre grand-père et vous avez...
Il paraît que le reste, c'est moi.
Le vous, voilà. ses idées, son caractère, sa façon d'agir, ça serait plus vous. Donc.
Oui, mais je pense que mon grand-père m'a beaucoup influencé aussi, donc il se retrouverait, je pense, dans ce personnage.
Ah, tout à fait. Donc, Pierre Pagès, son fidèle et dévoué ami Dédé, le bijoutier.
Le bijoutier de Banyuls, André Sagols, qui a été bijoutier à Banyuls, qui a vraiment existé. Sa bijouterie existe toujours. Son épouse, que je mets aussi en scène dans le livre, existe toujours et tient la bijouterie que l'on peut retrouver à Banyuls, rue Saint-Pierre.
Donc, vous avez pris des personnages.
Beaucoup de ces personnages, comme c'était pour moi un jeu au départ, et je ne pensais pas à une publication postérieure. J'y ai mis beaucoup de gens qui m'entourent, que je connaissais, que j'aime ou que j'ai eu envie de faire revivre, comme Dédé qui nous a quittés, qui était un grand ami. Et donc je l'ai fait revivre, j'ai partagé une histoire avec lui.
Comme pour votre grand-père, vous avez fait revivre deux personnes qui étaient chères.
Qui m'étaient chères et qui sont toujours dans ma tête et avec qui je vis quand même tous les jours. Donc là, je les ai lancés dans une aventure et ça m'a beaucoup plu de les retrouver à travers cette histoire.
Alors, il y a aussi la belle Marianne, l'attachée de communication Pierre Pagès.
Il y a des femmes quand même un peu dans ce
livre. Oui, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes.
On m'a reproché un peu trop de sagesse avec ces...
Il y a quand même des sentiments, on y parle de sentiments dans
on y parle de sentiments,
aussi, d'amitié, mais de sentiments amoureux.
Après,
aussi,
ça reste relativement pudique. Il y a une maman un jour qui m'a dit sur un salon, est-ce que je peux l'acheter à ma fille qui a 15 ans? Vous pouvez y aller, je pense.
Il n'y a pas de scène.
Il n'y a rien qui soit trop... Tout peut être mis sous des yeux, même innocent.
Donc la belle Marianne a existé aussi. Vous avez croisé cette
belle femme? Oui, j'ai croisé un peu, la belle Marianne, je l'ai croisée, oui.
Vous en avez croisé une, voilà.
Voilà.
Alors, il y a aussi le prêtre togolais Nafaoui, que j'ai beaucoup aimé aussi.
Nafaoui Misabaou, Nafaoui Misabaou existe d'ailleurs, c'est un enfant togolais dont je m'occupe un peu, voilà. Donc, Nafaoui Misabaou existe, il n'est pas prêtre,
il a 17 ans
aujourd'hui, il fait ses études dans son village du nord du Togo.
D'accord.
Mais Nafaoui Misabaou existe.
D'accord, lui aussi.
Il y a un Nafaoui sur la planète, voilà.
D'accord. Alors, il y a aussi le peintre Biulès, hein, le peintre donc, qui réside à Montpellier, un peintre reconnu, hein, donc, qui expose ses tableaux donc, au musée de Céret, justement, cet été-là. Hein,
oui, cet été-là, puisqu'il y a tous les ans à Céret une exposition permanente à côté d'un fonds, une exposition temporaire, pardon, à côté d'un fonds permanent qui est très riche. Mais cette année, c'était Biulès. Biulès vit à Montpellier, donc je l'ai contacté quand même pour lui,
oui,
demander,
pour lui demander
si
demander
je
la
pouvais. Je lui ai fait lire le livre.
Oui.
Et comme,
il a aimé.
Oui, mais il a beaucoup aimé, il m'en a commandé beaucoup pour ses amis, donc je pense que finalement ça n'a pas choqué que je le mette en scène et que je lui fasse voler ses tableaux.
Oui, parce qu'on va y
venir. C'est déjà une reconnaissance quand même quand
ah,
on
oui,
commence
à
voler
à
des,
oui.
un tableau, c'est une reconnaissance.
Oui, hein. Alors bien sûr, il y a bien d'autres personnages, hein, tous les autres protagonistes de l'histoire, hein, qui sont autant de suspects potentiels, hein, on peut dire,
oui,
hein, aussi.
Oui, oui,
hein,
oui,
donc
oui,
on laisse aux lecteurs, enfin aux auditeurs, la surprise de découvrir. Alors l'intrigue, on y vient. Alors des tableaux du peintre Biulès donc, sont exposés au MAM et disparaissent de façon très mystérieuse. Alors, moi, ça m'a fait penser un peu au mystère de la chambre jaune. Ils disparaissent et il n'y a pas d'explication comment ils ont pu disparaître alors que tout est fermé.
Oui, mystère de la chambre.
Ouais, bah, oui, genre, dans l'idée. Hein,
oui,
dire,
oui,
voyez,
mais c'était un peu ça. Il y avait le mystère de la chambre jaune dans mes souvenirs inconscients,
ah, bah, voilà.
Certainement. Il y avait un peu Belphégor aussi. Que,
oui, tout
bon,
à fait. Bah,
le
musée
de Louvre,
oui,
etc.
Oui, le
certainement,
de
oui, il y avait un peu de tout ça dans ma tête. Oui.
Alors, donc, il y a un meurtre, un premier meurtre qui sera suivi de d'autres également. On ne va pas tout détailler parce qu'il faut laisser le suspense. Et puis, il y a aussi des vols d'œuvres d'art dans la région. Dans les églises, dans des maisons particulières, hein, dans le même temps que le vol des tableaux. Alors, on y parle aussi de Rennes-le-Château et de la Bessonnière dans votre livre. J'ai bien aimé aussi ce petit clin d'œil.
J'ai fait un petit détour. J'avais envie de parler de Rennes-le-Château qui m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, je me suis fait plaisir en faisant un chapitre qui se passe à Rennes. Oui, c'est un plaisir. Mais quand j'ai écrit ce livre, encore une fois, c'était un pari, mais c'était aussi pour moi un amusement, le plaisir de raconter une histoire et d'y mettre ce qui m'était cher ou ce qui m'intéressait. Donc voilà, on y retrouve.
Donc,
c'est un peu un melting pot de tout ce qui m'amuse
ou qui
m'intéresse.
Oui, mais c'est ça qui est bien. Alors donc, on y parle aussi donc, de sentiments, comme je disais, amoureux. Puis donc le suspense est omniprésent, hein, et ce jusqu'aux dernières pages. Je signale quand même que le roman a 317 pages exactement.
Oui,
et que jusqu'au
dedans,
dernier... Non, mais c'est très bien. Ça se lit vraiment très facilement. Et puis surtout, on est pris dedans et on le lâche qu'à la fin parce qu'on a envie de savoir, on a des idées. Et puis on s'aperçoit que non, c'est pas ça. Et finalement, à la fin, on n'avait pas pensé
Et puis il y a des policiers aussi
suspect.
Dans mon livre. Il y a des policiers,
aussi,
notamment ceux de la brigade spécialisée en matière d'œuvres d'art.
En matière d'œuvres d'art,
une brigade mixte police nationale gendarmerie qui est basée à Paris, mais qui est spécialisée dans le trafic et la répression des œuvres d'art. Et c'est une brigade qui existe
qui
vraiment.
Qui existe vraiment, oui. Donc votre livre est vraiment puisé dans la réalité.
Oui, oui, oui.
Alors on y découvre, moi j'ai beaucoup, ça c'est le petit clin d'œil, on y découvre ce qu'est un PCB.
Ah, le PCB,
c'est un
oui.
picon citron bière. Alors est-ce que c'est une spécialité catalane?
Je ne sais pas, c'est là en tout cas que je l'ai découvert et que je l'ai
d'accord.
bu avec mes amis vignerons catalans, et notamment Jean-Roger qui est cité dans le livre,
oui.
qui est le président du syndicat de viticulture. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir le PCB, que je bois toujours avec beaucoup de plaisir. Enfin j'en bois un, rarement deux,
oui,
je n'ai
ça,
jamais pu aller au lieu de deux.
Oui,
avec le soleil Bagnoulenc, au-delà de deux, ça devient vraiment dangereux.
Mais voilà, j'ai découvert ça, je ne connais pas. Je connaissais le picon bière simple, mais PCB, avec le citron en plus, je ne connaissais pas.
Boire un PCB sur le pass de Bagnouls en écoutant, en regardant les sardanes,
oui.
J'imagine.
Alors on déguste aussi dans votre livre, on déguste donc tout en lisant un canard aux cerises. Alors on imagine, ça donne l'eau à la bouche, hein, on imagine que ça doit être succulent, quoi.
Oui, oui, mais tout ce qui est fait là-bas est succulent. Moi, je parle pas beaucoup de repas parce que finalement pour moi le repas c'est quand même la vie, c'est quelque chose d'incontournable.
Oui,
et puis un bon repas avec des amis c'est quand même le summum du plaisir et de la joie de vivre. Donc je parle effectivement de cuisine, de recettes, pas de recettes, mais de plats.
Ah oui,
il y a
beaucoup
qui
de plats
peuvent peut-être
qui
donner l'eau à la bouche.
Ben voilà. Oui, moi ça m'a donné envie d'aller en Catalogne et puis de goûter un PCB puis de manger. Il y a plein de choses bonnes à manger là-bas.
Les bols de picolats ou le canard aux cerises.
Voilà.
Ou des choses comme ça, oui.
Alors au final, c'est un premier polar qui est fort réussi. Moi, je vous le dis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est plein de suspense et de rebondissements, hein, et le tout dans une région donc magnifique et que vous décrivez d'ailleurs de façon magnifique, hein, qui donne envie d'y aller, la Catalogne, avec des personnages vrais, hein, et hauts en couleur pour certains. Hein, ce sont des personnages voilà, qui sont vraiment bien ancrés quoi, dans cette région et dans cette histoire. Et donc voilà, je dis au lecteur, c'est à découvrir absolument. Je vous rappelle le titre, je reprends le livre, voilà, Peinture au pistolet acéré de Jacques Lavergne aux éditions Mare Nostrum. Et alors forcément, on va terminer cette émission avec cette question, à quand le deuxième polar, Jacques?
Alors avant de passer au deuxième, juste une précision sur celui-là, je pense que nous ferons dans les semaines qui arrivent une signature à ombre blanche.
Vous me redirez la date que je l'annonce dans la page info. Hein,
je vous dirai à quelle date ça reste à fixer, mais on en est d'accord sur le principe avec Christian Torel qui dirige Ombre Blanche.
Parfait.
Alors le deuxième est sur le point de se terminer. J'en suis à la chute, donc ce qui est le plus compliqué, hein,
et
qu'il faut absolument soigner, réussir. Voilà, le prochain se passe toujours en Catalogne, se passe à Barcelone.
D'accord.
Il puise son inspiration première dans les événements de la retirade, mais c'est un livre très contemporain.
On verra
passer Pierre Pagès, on ne verra pas peut-être. Il y passe un peu fugitivement, mais surtout le personnage principal, c'est une jeune beurre, très très catalane d'ailleurs, hein, parce que la Catalogne.
Vous mettez dans la peau d'une femme.
D'une femme jeune et beurre, donc ce qui est quand même un peu compliqué pour moi, mais très enrichissant. Reste à savoir après si la mayonnaise prendra. Je l'espère, je fais tout pour ça. Et la sortie.
Et ça sera Mare Nostrum aussi.
Ah oui,
hein,
Mare Nostrum.
Voilà,
oui, je suis garçon fidèle. Et ce sera donc 2011. Pour une sortie sur 2011, peut-être pour la Sant Jordi, qui en Catalogne est la fête du livre et des fleurs. On offre à une femme un livre et une fleur, c'est une belle tradition.
Sympathique, ça.
Donc, ce sera pour le tout début 2011.
Je vais instaurer ça à Radio Occitanie.
Voilà, mais c'est une belle tradition.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques. Ce premier polar. Et on attend le deuxième avec impatience. Vous reviendrez nous en parler ici à Radio Occitanie.
Ah bien, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Je reviendrai avec autant de plaisir que j'en ai éprouvé cette fois-ci.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques. Et on se quitte avec une petite surprise. Je vous ai... on va écouter un chanteur catalan. Et on va se quitter donc sur une chanson catalane, puisque la Catalogne est à l'honneur dans votre livre.
Superbe.
Et puis vous êtes d'origine catalane. Donc voilà, on écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles à Radio Occitanie et à Adiciats.
De Maragna, i no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys, que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar, i caminar per poder ser. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses, on per vindre alliberats, on per vindre alliberats. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà, i no sabem himnes triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de la sang. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant quan és la vida mateixa que ens obliga cada pas. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar endins.